chemin de la sagesse. Une émission proposée par Michel Théron.
Michel Théron, bonjour.
Bonjour Guylaine, bonjour à tous.
Alors, sur les chemins de la sagesse, c'est toujours publié aux éditions BOD. Et nous abordons la deuxième partie du chapitre « L'ange et la bête ».
Voilà, nous avons vu la semaine dernière que l'ange, justement, figurait le désir de s'élever, le désir que la vie soit toujours parfaite, exempte de moments de trivialité, hein, et la catastrophe qui peut arriver, c'est une submersion, c'est ce qui arrive à Icare. Hein. Icare, à trop vouloir s'approcher du soleil, eh bien, ses ailes ont fondu et il s'est noyé dans la mer. Hein. Alors, il n'a pas pu étreindre les nuées, comme le dit Baudelaire dans Plainte d'un Icare. Alors, faute de pouvoir étreindre les nuées, une autre réaction est possible. On peut décider que, puisque décidément ces nuées, on ne peut les étreindre, elles ne sont pas accessibles, on va, comme par défi, se vouer à l'exact contraire, s'enfoncer dans la finitude terrestre et au sein même de la matière, décider de se trouver bien et y être, comme le dit encore Baudelaire, heureux, dispos et repu. Alors s'opère le choix inverse du choix de l'exaltation. Ce choix, je l'appellerai la banalisation. Hein. Mmh. C'est l'autre pôle de l'âme. C'est comme l'ombre, le double inversé de l'exaltation. Alors on peut dans la vie commencer par l'exaltation et finir par la banalisation. Hein. Prenez le cas d'un poète romantique comme Musset. Il commence à être comme un amoureux exalté et plein de rêves. Hein. Un nouveau Werther, pour prendre l'exemple de Goethe. Hein. Par exemple, dans Les Nuits, il dit « La vie est un sommeil, l'amour en est le rêve, et vous avez vécu si vous avez aimé. Hein. » Donc, il fait l'éloge de l'amour, y compris de ses souffrances. Il dit « J'aime et je veux aimer, j'aime et je veux brûler, j'aime et pour un baiser je donne mon génie, j'aime et je veux sentir sur ma joue amaigrie, ruisseler une source impossible à tarir. » Vous voyez, ça c'est le grand lyrisme romantique. Hein. Donc, c'est La nuit de mai de Musset le montre bien. Mais figurez, vous savez comment il a fini, Musset, Guylaine, peut-être pas. Hein. Il a fini par être un libertin blasé, un cynique jouisseur, un homme de désir et de plaisir. Hein. Et cela se résume dans un vers connu tiré de La coupe et les lèvres. Qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse.
Ah oui.
Oui.
Ah oui.
C'est terrifiant.
Ah oui.
Enfin, terrifiant, je ne sais pas, mais c'est logique. C'est-à-dire que on se dit, bon, ce que j'ai rêvé n'existe pas, je vais choisir l'opposé. Qu'importe le flacon, pourvu que j'ai ivresse. C'est le cas de Don Juan, par exemple. Don Juan est un homme, on dit c'est un séducteur. Non, c'est un homme perpétuellement séduit. La beauté me séduit partout où je la trouve, et je lui tends les armes vaincues, de loin que je la vois arriver, je la vois admirer, je crois. C'est ce que dit Don Juan au début de la pièce de Molière, vous voyez. Hein. Donc, qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse, ça veut dire que il y a un grand mépris de l'autre, là. Vous êtes d'accord,
ah oui,
Guylaine?
Complètement, oui.
Tu n'as jamais été dans tes jours les plus rares qu'un banal instrument sous mon archet vainqueur, et comme un air qui vibre au bois creux des guitares, j'ai fait chanter mon rêve au vide de ton cœur. Vous voyez? Bon, la guitare, c'est creux. Hein.
Oui.
Bon, alors, on fait un rêve à propos d'une femme, hein, bon, et puis, mais elle est, c'est creux, hein, on tape dessus, c'est creux, mais on peut en tirer un très beau son, vous voyez? Hein. Alors, il y a une grande misogynie, hein, je suis d'accord, hein, Guylaine, votre côté féministe, donc... Voilà, hein, elle est flagrante. Donc, préférer le sentiment plutôt que justement l'autre, hein, c'est le propre même du donjuanisme. Hein. Alors, on est d'abord Werther, prototype de l'amoureux transi, épris d'idéal, et puis on finit par être Don Juan, enfoncé dans des plaisirs les plus communs, vous voyez. On prend son parti de la finitude, hein, dont j'ai parlé lors de la dernière émission. Alors, formellement, on peut voir là un double aspect constitutif de la même personnalité. Vous savez, vous connaissez, Guylaine, les fameux troubles bipolaires ou cyclothymiques dont s'occupe la psychiatrie. Tantôt un individu est dans une phase de dépression ou de retombée, hein, tantôt il est dans une phase maniaque ou d'exaltation, vous voyez, hein. Alors, tout cela, finalement, pourrait, métaphoriquement parlant, hein, je ne parle pas des troubles bipolaires au sens médical strict, hein, mais tout cela pourrait figurer l'alternance des phases d'exaltation et des phases de dépression, la phase de dépression trouvant justement sa satisfaction dans ce que j'ai appelé la finitude terrestre. Alors la différence, c'est que le banalisé n'est pas forcément dépressif ou n'a pas conscience d'être dépressif. Délibérément, il veut jouir sans entrave, il vit simplement sous l'emprise de ses désirs, y compris de ceux qui le tirent le plus vers le bas, hein. Et à la différence d'Icare tendu vers un idéal, le banalisé va flotter de ça de là au gré de ses pulsions. Il n'a pas d'unité intérieure. Et finalement, il prend son parti, justement, de la médiocrité de la vie. Il peut même en parler légèrement, en plaisantant. Bon, avec peut-être une amertume, vous direz, Guylaine, dans la chanson que nous allons écouter, et qui est toujours de Georges Brassens, « Il est des jours où Cupidon s'en fout ».
Pour changer un amour, un autre amourette, il s'en serait pas fallu de beaucoup. Mais ce jour-là, Vénus était distraite. Il est des jours où Cupidon s'en fout. Il est des jours où Cupidon s'en fout. Des jours où il joue les mouches du coche, où elles sont émoussées dans le bout, les flèches courtoises qu'il nous décoche. Il est des jours où Cupidon s'en fout. Il est des jours où Cupidon s'en fout. Se consacrant à d'autres imbéciles, il n'eut pas l'heure de s'occuper de nous. Avec son arc et tous ses ustensiles, il est des jours où Cupidon s'en fout. Il est des jours où Cupidon s'en fout. On a tenté sans lui d'ouvrir la fête. Sur l'herbe tendre, on s'est roulé, mais vous avez perdu la vertu, pas la tête. Il est des jours où Cupidon s'en fout. Il est des jours où Cupidon s'en fout. Si vous m'avez donné toute licence, le cœur, hélas, n'était pas dans le coup. Le feu sacré brillait par son absence. Il est des jours où Cupidon s'en fout. Il est des jours où Cupidon s'en fout. On effeuilla 20 fois la marguerite. Elle tomba 20 fois sur pas du tout. Et notre pauvre idylle a fait faillite. Il est des jours où Cupidon s'en fout. Il est des jours où Cupidon s'en fout. Quand vous irez au bois compter fleurettes, jeune galant, le ciel soit avec vous. Je n'ai pas cette chance et le regrette. Il est des jours où Cupidon s'en fout. Il est des jours où Cupidon s'en fout.
c'est Michel Théron pour Sur les chemins de la sagesse. Qui a choisi Georges Brassens ? Il est des jours occupé d'où s'en fout.
Voilà, donc le feu sacré brillait par son absence. Vous voyez, j'ai remarqué cette expression. Hein. Donc, vous avez perdu la vertu et pas la tête. Voilà, le cœur n'était pas dans le coup. Hein. C'est vrai qu'ils font les gestes de l'amour, mais il n'y a pas d'amour. Voilà.
Hein. C'est creux.
Voilà, c'est creux. Hein. C'est purement mécanique. Hein. Or, comme le dit Rousseau, les sensations sont ce que le cœur les fait être. S'il n'y a pas de cœur, il manque quelque chose. Hein. Bon, alors le cynique jouisseur hein, se contente des plaisirs, hein, mais il peut très bien ne pas avoir le sentiment qu'il manque quelque chose. Alors que Brassens, à la fin de sa chanson, dit qu'il regrette justement hein, l'absence de Cupidon. Hein. Donc le playboy international, le gigolo, si vous voulez, toutes les avatars de Don Juan hein, profitent des plaisirs. Il y a un livre de José Luis de Villalonga qui s'appelle L'homme de plaisir, hein, ils ne sont jamais, investis, voilà, du point de vue affectif, hein, donc c'est purement, instinctif ou instinctuel. Alors, si c'est Icare qui incarne l'exaltation, qui est-ce qui va incarner la banalisation? Eh bien, je dirais, c'est Dionysos. Hein. Dionysos. Dionysos, en latin, Bacchus. Hein. À la différence d'Icare qui est tendu vers un idéal, le banalisé flotte de ça de là au gré de ses pulsions. Il n'a pas d'unité intérieure et son destin, à lui, est le destin de Dionysos. Est-ce que vous savez comment il est mort, Dionysos?
Non.
Voilà. Alors, il a été écartelé, hein, dépecé par les Ménades. Hein, et le culte de Dionysos a été assuré par les Ménades, qui sont appelés aussi les Bacchantes, hein, et il est à la mesure de ce qui est arrivé à Dionysos, hein, mis à mort par démembrement, en grec on appelle ça le diasparagmos, hein, et dévoration de la victime toute crue, on appelle ça l'homophagie. Donc je dirais que si le destin de l'exalté c'est la submersion finale, l'engloutissement et la noyade dans la mer, où les instincts se vengent en quelque sorte d'avoir été méprisés, scénario qui figure un suicide spirituel catastrophique, le destin du banalisé, qui se range volontairement du côté de ce qui le déchire, c'est la dispersion, l'écartèlement, ou le démembrement. Hein. Alors bien sûr, on peut voir là l'opposition entre le pôle apollinien de l'être, l'exaltation vers la lumière, et le pôle dionysiaque de l'être, l'acquiescement aux injonctions de la zone instinctuelle incarnée par la banalisation. Alors on sait que cette opposition a été théorisée par Nietzsche, dans son livre « La naissance de la tragédie », l'opposition entre apollinien et dionysiaque. Alors celui qui dans la vie se livre pieds et poings liés à Dionysos, comprenait à chacun de ses désirs, faute de savoir gérer les désirs, va devenir esclave de ses désirs. Et non seulement il est démembré, dépecé, écartelé, mais aussi il est brûlé, consumé par les désirs, comme le fut, dit-on alors, un autre héros de la mythologie grecque, c'est Héraclès ou Hercule. Hein. Héraclès a été brûlé par une tunique qui lui avait été donnée par sa femme Déjanire. En effet, Déjanire, la femme d'Héraclès, était jalouse d'une autre femme. Hein, et elle voulait, par le cadeau qu'elle allait lui faire, reconquérir Héraclès. Mais la tunique était empoisonnée et elle avait été donnée par le centaure Nessus à Déjanire. Un centaure, c'est quoi? C'est un être qui est moitié homme, moitié animal. Et par là, on voit ce qui est ici en question. Le pouvoir, je dirais, consomptif, c'est-à-dire le pouvoir de consumer qu'a l'animalité à l'égard de l'homme. Le désir purement animal ne peut conduire qu'à l'incendie des sens et à l'anéantissement final par brûlure constante. Hein. Et en effet, Héraclès, ne pouvant supporter la douleur, fit dresser un bûcher où il mourut incinéré. Vous voyez? Alors combien de fois le désir est pour celui qui l'éprouve un cadeau empoisonné, une tunique de Nessus, hein, spécialement pour le banaliser qui ne voit d'autre horizon que lui et qui le subit constamment au lieu de le mesurer soigneusement et de pactiser avec lui, hein, avec le désir. Par exemple, tenez, dans le Gorgias de Platon, Calliclès dit à Socrate, moi je vois la vie comme avoir le plus de désirs possible et les satisfaire le plus possible. Et Socrate répond, tu me fais penser, Calliclès, à quelqu'un qui aurait la gale, qui trouverait du plaisir à se gratter, qui se gratterait tout le temps, vous voyez. Donc, c'est comme une espèce de tonneau des Danaïdes. Les Danaïdes avaient été condamnés à remplir un tonneau sans fond, hein, dont le désir s'alimente, mais finalement, c'est comme un hérétisme. Hérétisme, c'est-à-dire une démangeaison, hein. Une démangeaison. Alors Baudelaire en a parlé dans Les femmes damnées, hein. Vous voyez ce qu'il dit, l'âpre stérilité de votre jouissance altère votre soif et roidit votre peau, et le vent furibond de la concupiscence fait claquer votre chair ainsi qu'un vieux drapeau. Vous voyez, donc on sent là ce qu'est l'enfer sensuel, l'enfer des pures sensations, hein. Vous voyez ce qu'il dit aussi à propos de la danse macabre des hommes sensuels, hein. Baudelaire dit très bien, Antinous flétri, dandys à face glabre, cadavre vernissé, lovelace charnu, le branle universel de la danse macabre vous entraîne en des lieux qui ne sont pas connus. C'est comme une danse, si vous voulez, des hommes qui n'ont que le désir, hein. Alors il faut écouter les mythes. Les mythes ne sont pas des mystifications, comme on le croit peut-être depuis Auguste Comte et le positivisme. Vous savez qu'Auguste Comte, dans son cours de philosophie positive, dit que l'humanité passe par trois états ou trois phases, c'est la fameuse loi des trois états, hein. Premièrement, l'état théologique ou fictif, où l'homme explique tout par les interventions des dieux. Deuxièmement, l'état abstrait, l'état philosophique ou abstrait, où l'on explique tout par des abstractions, hein. Cet état n'est qu'une variante du premier. Par exemple, dans le premier état, on dira la foudre, c'est la colère de Zeus, hein. Bon, dans le deuxième état, les abstractions, ça sera par exemple les corps tombent parce qu'ils ont une vertu pesante, le pain nourrit parce qu'il a une vertu nutritive, l'opium fait dormir parce qu'il a une vertu dormitive, etc., hein. Ça, c'est l'état métaphysique. J'ai dit philosophie, je me suis trompé. C'est l'état métaphysique ou abstrait, hein. C'est une variante du premier état. Et alors, le dernier état, pour Auguste Comte, c'est l'état positif, c'est-à-dire l'état de la science positive, où on explique tout, non pas par les dieux, non pas par des abstractions, mais par les vraies causes ou raisons des choses. Ainsi, les corps tombent parce qu'ils sont attirés par le centre de la Terre, la gravitation. Le pain nourrit parce qu'il a tel ou tel élément nutritif qui est métabolisé par l'organisme de telle ou telle façon, etc. Alors, pour Auguste Comte, le dernier état annule définitivement les deux premiers, hein. Eh bien, je ne suis pas de son avis. Je pense que l'homme peut percevoir le monde d'une façon logique, scientifique, effectivement, mais il peut le percevoir aussi de façon mythologique, à condition de savoir bien interpréter les mythes et les symboles, hein. Donc, y a une multipolarité de l'esprit. Tantôt on interprète de telle ou telle telle façon, tantôt on interprète d'une autre, hein. Donc le mythe permet de voir en l'homme, hein. Breton le dit très bien, il dit, ces êtres-là, faut-il les convaincre qu'ils procèdent du mirage, ou bien leur donner l'occasion de se découvrir par l'exploration véritable des mythes. Tenez, Guylaine, j'ai lu dans la presse que on avait trouvé que le monstre du Loch Ness, en Écosse, était une anguille géante. Bon, parce que on a fait des analyses de l'ADN, hein, dans le lac, et on a trouvé beaucoup d'ADN d'anguilles. Alors, le savant, le savant science positive, bon, le réductionnisme positiviste a dit, ce n'est que ça, ce n'est qu'une...
Le mythe disparaît.
Voilà, le mythe a disparu. On ne s'est pas interrogé sur la question de savoir pourquoi l'homme avait inventé le monstre du Loch Ness, Nessie, on l'appelle Nessie, hein, ce monstre. Bon, mais on a dit ce n'est qu'une anguille, etc. Alors, bon, sur tous les phénomènes surnaturels, on va leur trouver une cause positive. Par exemple, les feux follets. On disait autrefois que c'était les âmes en peine qui venaient hanter les vivants, les âmes des morts qui n'avaient pas trouvé le repos, qui venaient hanter les vivants. Maintenant, on sait que ce sont des gaz qui s'échappent des cadavres par combustion spontanée quand les corps ne sont pas ensachés, n'ont pas de cercueil, vous voyez, hein, donc se décompose. Voilà. Alors voilà, ce n'est que ça. La science positive dit que ce n'est que ça. On peut aller très loin. On peut dire, par exemple, que le buisson ardent de Moïse, c'est simplement l'air qui tremble quand il fait très chaud sur toute chose. Vous savez, il fait très chaud, on a l'impression de voir du feu. Hein, voilà. Ou alors, tenez, pour les catholiques, les apparitions de la Sainte Vierge à Lourdes se viendraient justement des rendez-vous galants de la pharmacienne de Lourdes, qui s'appelait Madame Paillasson, hein, précisément. Je n'invente rien, qui avait donné rendez-vous à son militaire de bien-aimé, comme ça. Elle avait été surprise par la pauvre bergère, et alors elle aurait ramené son châle sur la tête, et elle aurait se serait fait passer pour la Sainte Vierge, vous voyez, voilà. Les apparitions de Lourdes réduites au rendez-vous galant de Madame Paillasson.
C'est moins exaltant.
C'est moins exaltant, voilà. Bon, je ne sais pas s'il en est ainsi, on pourrait parler de la Salette, etc., différentes apparitions. Je pense que je choquerai moins les protestants que les catholiques, en parlant de ces hypothèses. Eh bien, je dirais que ce réductionnisme, ce n'est que ça, c'est très court comme raisonnement, hein. En fait, il faut savoir écouter les mythes, il faut savoir les scruter, bien les interpréter. Ce ne sont pas des mystifications, hein. Ou au moins pas tous, hein. Voilà, au moins pas tous, hein. Et alors là, l'histoire d'Icare, le mythe d'Icare et le mythe de Dionysos, je crois que si on les explique de la façon dont je viens de le faire, peuvent baliser notre cartographie psychique, la carte de notre âme. Alors je me suis inspiré, puisque je n'ai pas inventé ça, d'un livre de Paul Diel, D-I-E-L, un livre qui s'appelle « Le symbolisme dans la mythologie grecque ». Hein. Et il a vu dans l'exaltation et dans la banalisation les deux pôles et en même temps les deux dangers majeurs du psychisme humain. Alors, que va faire le sage face à ces deux tentations, hein, la tentation de l'exaltation et la tentation de la banalisation? Alors, on pourrait dire, il faut un juste milieu. Mais alors, cette conclusion du juste milieu me laisse toujours perplexe, hein. Je trouve que c'est insuffisant ici, car c'est bien, bien flou. Et alors, nous verrons dans la prochaine émission, hein, une piste possible pour résoudre cette question. Comment faire dans la vie pour ne pas tomber après avoir été exalté, ou ne pas plonger dans la vie suicidaire, spirituellement parlant, du banalisé. Alors, je ménage le suspense et je dis aux auditeurs, rendez-vous à la prochaine émission pour voir quelle piste on peut tracer pour essayer de dépasser cette contradiction.
Nous serons au rendez-vous. Merci, Michel.
Au revoir à tous.
Retrouvez Michel Théron sur son blog www.michel-théron.fr.